les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les ondes buissonnières. Il y a quelques semaines, nous avons diffusé Gaza Calling de Marine Vlahovic, introduit par son amie Elsa. Marine Vlahovic avait été correspondante de plusieurs radios francophones, en particulier RFI Radio France à Ramallah, en Cisjordanie, de 2016 à 2019. De son expérience, elle a tiré ses formidables carnets de correspondantes diffusés sur Arte Radio. Une chronique drôle, sensible et critique de la beauté et des limites de la grande fabrique de l'information. Ces carnets lui ont d'ailleurs valu d'être lauréate du prix SCAM du podcast documentaire en 2021. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, elle n'avait cessé de relayer la voix de ses confrères journalistes gazaouis. Nous souhaitons encore lui rendre fémage en diffusant l'intégralité de la série Carnets de correspondantes. Bonne écoute.
Un an à peine après mon installation à Ramallah, Donald Trump a fait des siennes.
Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et fragilise un peu plus les perspectives de paix dans la région.
Et cette actualité est passée au second plan.
En France, les hommages nombreux et unanimes se sont succédés toute la journée d'hier pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday.
Mais les envoyés spéciaux ont débarqué en prévision du grand embrasement.
What is the feeling about people here? This will carry on.
Oui, hein, ils sont plus d'un millier de manifestants et bien à être descendus dans les rues de Ramallah.
Après quelques jours de chauffe, la vague de colère annoncée est retombée comme un soufflet. Les médias français, eux, sont restés scotchés sur Johnny. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlahovic, produit par Arte Radio. Troisième épisode, la guerre promise. Pendant trois ans, je n'ai pas vu l'ombre de la troisième intifada, mais des étincelles, des flambées de violence. C'est mon fond de commerce. Il n'y a plus que ça qui intéresse vraiment les rédacs.
Les soldats envahissent le centre-ville de la plus grande agglomération de Cisjordanie et lancent plusieurs assauts sur les manifestants. Certains invoquent des prières.
Les manifestations ou les clashs entre les Palestiniens et l'armée israélienne obéissent à la règle des trois unités. Unité d'action. Des manifestants, le visage recouvert d'un keffieh, fronde, pierre et drapeau à la main, font face à des soldats surarmés qui balancent des gaz lacrymogènes, des grenades explosives et tirent parfois à balles réelles en Cisjordanie ou à Jérusalem.
Oh putain !
À la frontière de Gaza, c'est automatique. Unité de lieu. Les checkpoints de Cisjordanie.
Comment s'appelle ce checkpoint ?
Les portes de la vieille ville de Jérusalem ou la ligne de séparation à Gaza. Unité de temps, le vendredi, après la grande prière. Ça dure quelques heures avant la grande dispersion, à coups d'eau qui sent le putois dans le meilleur des cas.
On est resté trop longtemps,
hein?
J'ai pas l'impression. Non, mais j'ai l'impression que, en fait, du coup, ça s'est imprégné sur moi.
Ça s'imprègne sur toi.
Il y a bien sûr des variantes, et c'est un drame bien réel, pas une pièce de théâtre.
Can I stay with you?
What? Hey, take care of me.
Yalla, yalla, we stay together, all together. If not, they will pick us, one by one.
Par lassitude, par crainte aussi, ces manifestations mobilisent de moins en moins. ça n'empêche pas les rédactions de s'emballer en période de tension. Moi aussi, je suis fébrile. Je saute surtout sur l'occasion pour qu'on parle de ma région. Ça, c'est ce que vous pouvez entendre à l'antenne.
Mais en quelques secondes, les gardes frontières dispersent violemment la foule.
Ah !
Des heurts éclatent en contrebas. Les fidèles promettent de revenir encore aujourd'hui aux abords du lieu saint.
Mais en vérité, on passe de longues heures à faire le pied de grue. À prendre des selfies avec le combo gilet pare-balles, casque et masque à gaz.
C'est hyper lourd, putain, les gilets pare-balles.
On mise sur l'ambiance du jour. On, ce sont les journalistes étrangers, rassemblés en troupeau.
On était au zoo, en fait.
J'en fais partie. Mais je ne suis pas à l'aise et j'essaye de garder mes distances. En revanche, je ne quitte pas mes confrères palestiniens d'une semelle. Ce qu'on m'attend...
Je te préviendrai dès que ça... Si ça pète et dès que ça pète, je te préviens.
C'est que ça pète. Sous les demandes pressantes des rédactions. Et évidemment... Ça pète. Et puis le rideau tombe. On remballe les gilets pare-balles avec d'autres préoccupations en tête.
Tu penses que c'est fini ?
Oui.
Mais toujours avec l'impression d'avoir fait chou blanc. Parce que ce que veut la meute des journalistes, c'est que ça pète, mais vraiment. Un grand conflit armé, avec son lot de roquettes, de bombardements, de tanks et de sang. La guerre promise arrivera bientôt, on le sent. Sûrement pendant l'été, non, finalement, peut-être à l'automne. Voilà pour les pronostics. Mais cette nouvelle guerre, elle tarde à éclater. Alors en attendant...
Alors on danse ?
Alors on danse !
On fait la fête et on boit. N'imaginez pas que c'est la bamboche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'en ai besoin après d'intenses sessions de travail ou tout simplement pour garder le cap.
J'aurais fini de bosser vers 9 heures et j'ai très très envie d'aller boire des coups.
Ramallah, c'est une petite bulle festive et les bars ne manquent pas.
Tu viens faire la teuf à Ramallah ce soir ? Kifak ? I need to drink. I'm sorry, I need to drink.
D'abord, garage. C'est mon QG et celui des hipsters locaux et occidentaux. Tout le monde ici se ressemble. À l'œil, on ne sait jamais si on est en Europe ou au Moyen-Orient. Il y a aussi la boîte radio, la bien nommée, et ses soirées électro. Le snowbar avec son jardin-piscine et ses banquettes où on s'affale comme des pachas. Et Berlin à Ramallah pour ses afters ponctués de visites surprises de la police palestinienne. Officiellement, tout ferme à minuit. Alors, on éteint la musique et on chante en attendant que les flics s'éloignent. Les soirées défilent, tout comme mes amants. Des histoires sans grand succès d'un côté comme de l'autre du mur. Parce que je n'ai aucune envie d'être ligotée à ce conflit. Ils sont très différents les uns des autres, mais ils ont tous la même manie. À l'instant où ils arrivent dans ma maison frigo de Ramallah, ils prennent soin de fermer les rideaux pour éviter d'être repérés par les voisins. De toute façon, je finis toujours par m'embrouiller avec eux et je les oublie vite.
Marine... Non.
Celui-là, quand je l'ai réécouté,
Wallah, you are a lovely person.
J'ai été incapable de l'identifier. Le moment critique, c'est le retour.
Donc là, route with no light, complètement dark.
Au volant de ma voiture pourrie, ça n'a rien d'évident. À cause des raids de l'armée israélienne. Quand elle fait une descente, la police palestinienne s'évapore.
Attends, tu sais, mon code, il a toujours un petit peu de mal.
Ah oui, non, mais...
Bah, c'est un peu chiant si tu dois partir en vitesse, tu vois.
Ah oui.
C'est par exemple, l'armée te dit « pars, pars !» Et toi, t'es là. C'est alors le... attends, j'ai mon code. 1, 2, 3, 4.
Une nuit, ou plutôt une aube, il est 4 heures du matin, j'embarque un ami pour un after chez moi. Je suis vraiment éméchée. Et on tombe nez à nez avec une patrouille en pleine opération. Le soldat israélien pointe son fusil sur nous en tremblant. Son arme est presque aussi grande que lui. Mon pote panique, pour cause, il est palestinien. Le soldat hurle je ne sais quoi, de faire demi-tour sans doute. Mais je suis coincée. Si j'avance de quelques centimètres pour manœuvrer, c'est sûr, il va penser que je l'attaque et il va tirer. Mon ami s'époumonne, les mains en l'air. « Don't shoot, don't shoot !» Moi, je m'agite pour mettre ma carte de presse sous les yeux exorbités du soldat. Il s'affole tellement que je me dis « Ok, c'est bon, je vais y passer. » Vous imaginez ma nécrologie ? Marine Vlaovic rentrait d'une soirée arrosée à Ramallah. On n'osera pas donner mon nom à une promo d'une école de journalisme. Finalement, une voiture déboule, détourne son attention et nous sauve la mise. C'est un incident de parcours vite oublié, noyé dans le flot de la fête.
C'est jeudi. Non, il y a une fête électro organisée dans le jardin d'une église ce soir. Je vais absolument y aller.
Les festivals en Cisjordanie, au pied de bases militaires. Les soirées Arabs Do It Better à Tel Aviv, où les jeunes Israéliens, en grande majorité des soldats ou des anciens soldats, se tortillent sur de l'électro-oriental sous MD. Ils viennent aussi s'encanailler à Ramallah.
Tonight we will dance. Ah, les lumières de la ville, Tel Aviv.
Il y a aussi les nuits dans les barguets de Jérusalem, pile en face d'un centre d'interrogatoire pour les détenus palestiniens. Et pour cultiver l'entre-soi, il y a les anniversaires et les soirées d'adieu du cercle fermé des expatriés. C'est the place to be, mais je m'en tiens éloignée. Ces fêtes privées commencent en mode distingué. Ambiance cocktail chez l'ambassadeur. Et se finissent sur la piste en chenille. Ou en démonstration de cours de Zumba par des épouses désœuvrées. Oui, ici comme partout, c'est souvent monsieur qui est en poste.
Elle a flan. Mni. Gelfaramsi. C'était une bonne fête. Une bonne fête.
Une bonne.
And now we will talk about something else.
Se dirige-t-on vers un nouveau conflit dans la bande de Gaza alors que les efforts sont déployés depuis des semaines maintenant par l'Égypte ?
Parce qu'elle a beau être à des années-lumière de cet univers déconnecté, la bande de Gaza se rappelle toujours à nous, surtout le week-end.
Oui, oui, ça va. Non, ça va. Tiens, on s'habitue, c'est un petit
Gaza, peu de... dans la Bible du journaliste au Proche-Orient, c'est la terre de la guerre promise.
Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
La bombe à retardement qui finira bien par exploser.
Gaza, prison à ciel ouvert depuis 11 ans, où les Gazaouis désespèrent ces derniers temps. Le nombre de suicides s'envole, nous dira Marina Vlaovic.
D'accord, je te fais ça dans les temps. Ça marche, 1 minute 15. Ça roule.
Oui, tout va bien, quoi. C'est la gueule de bois, tout va bien.
Une prison à ciel ouvert. C'est la métaphore bateau utilisée.
5, 5, 5, 5, 5. Une centaine de roquettes et de missiles de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza.
C'est un bras de fer à coups de roquettes et de raids aériens qui sont...
J'aimerais changer de registre, mais il n'y a pas vraiment d'autre terme pour la désigner. Plus de 2 millions de Palestiniens y vivent dans 360 km², les uns sur les autres, sous blocus israélien, avec un verrouillage égyptien et sans beaucoup d'espoir d'en sortir. sauf via son téléphone ou son écran. C'est sans doute l'un des derniers endroits au monde où une génération entière ne s'éloigne pas de son lieu de naissance et reste coincée dans un rectangle de terre minuscule. Il faut à peine 20 minutes en voiture pour traverser l'enclave d'est en ouest, une heure tout au plus du nord au sud. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont confinés. Alors, aller à Gaza, pour moi, c'est un peu comme se rendre au parloir. Un parloir accessible au bon vouloir d'Israël.
Bon, il y a les soldats qui ne veulent pas nous laisser rentrer à l'entrée des Rez. On va passer 10 000 coups de fil, ils vont monter leur tente, on va s'en sortir. On vous tient au courant.
I want to just to make sure about the opening of the Gaza border.
Okay, in what matter? What do you mean?
Like Erez is open today, but until what time to enter to Gaza?
Quand la voie est libre, je fais la route les yeux fermés. Je laisse ma voiture sur un grand parking pour traverser Erez à pied. C'est un checkpoint qui veut ressembler à un terminal d'aéroport. En fait, c'est un immense hangar désert et endormi.
Hello.
I am at Erez.
Okay,
great. So, see you within 30 minutes, I think.
Dans des cabines en verre, des gardiennes, toujours les mêmes, chewing-gum à la bouche et vernis flashy sur les ongles, vérifient ma carte de presse israélienne.
C'est celle avec ses ongles.
Mon sésame pour Gaza.
Marine?
Yes.
For how long you going to stay there?
Until Tuesday.
Puis, il y a le dédale bardé de caméras et de tourniquets.
Thanks.
Par contre, moi, ça va pas le faire. Je mets d'abord le gilet pare-balles. Mm-hmm. J'y crois que... on est vivant.
Et un couloir grillagé d'un kilomètre de long au milieu d'un no man's land. Vient le tour des checkpoints palestiniens. Le Ramsey-Ramsey, le 5-5. C'est celui de l'autorité palestinienne, qu'on passe juste pour la forme, parce qu'elle ne contrôle plus rien ici depuis des années.
Ok, tu viens nous chercher directement à Ramsey-Ramsey? Non, bah non, tu peux plus, ouais. D'accord, bah dis-nous quand t'arrives à Arba-Arba.
Et celui du Hamas, le Arba-Arba, le 4-4, carrément plus impressionnant. Des agents qui ressemblent aux ogres des contes pour enfants sont entassés dans des préfabriqués. Là, il faut faire profil bas. Où vas-tu dormir? Quel sujet tu comptes tourner? Qui vas-tu rencontrer? On a droit à un interrogatoire complet. Paranoïa oblige, les étrangers sont tous des espions potentiels.
Je suis contente d'être à Gaza. Mais c'est fou, hein, t'as vu quand même l'interrogatoire?
Les journalistes étrangers sont ultra encadrés. Impossible d'y rentrer sans un permis et un fixeur. Un journaliste local qui fait office d'interprète pour 200 à 250 dollars la journée. C'est l'équivalent d'un mois de salaire moyen pour les Gazaouis qui ont la chance de trouver du travail. Parce qu'ici, le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. En général, un fixeur, c'est un guide indispensable. À Gaza, c'est aussi un chaperon qui ne nous lâche pas d'une semelle. Alors, on nous trimballe de bureau en bureau, d'interview en interview, parfois assommante.
Le plus drôle, c'est quand même qu'on dormait tous les deux, quoi.
Moi, j'ai pas dormi.
Dans une voiture avec chauffeur. Certains fixeurs ont peur de leur ombre. Et une fois la journée de travail achevée, ils nous déposent à l'hôtel avec interdiction formelle d'en sortir. Il y a de quoi être frustré si on s'en tient à ça. Gaza, c'est chiant. On ne peut rien faire. Dixit, le correspondant d'une chaîne française basée à Jérusalem. Une caricature du reporter qui bombe le torse sous sa veste multipoche. Du genre qui fanfaronne en glosant sur la guerre qui vient, avec toujours un verre à la main. Il est allé une fois à Gaza avec l'idée de filmer dans la journée un tunnel de contrebande du Hamas. Rapé, ça demande un peu plus de préparation que ça. Résultat, il n'y est jamais retourné.
Il faudrait juste qu'il aille dehors tout à l'heure et qu'il vienne voir sa mère et c'est tout. On enlève les sacs et on enlève tout.
Alors je le remplace et je découvre Gaza en entamant une brève mais impitoyable carrière de journaliste télé au sein d'une équipe obsédée par les images.
Non, non, il faut qu'on fasse une image de quelqu'un qui vient la voir.
Des pros de la mise en scène. Qui s'arrange avec la réalité de l'instant. Par exemple, lorsqu'on doit interviewer une famille pour parler de la pénurie chronique d'électricité,
l'électricité vient de revenir.
Mais que la maison est illuminée.
Non, c'est pas pareil, c'est LED. C'est quelque chose de patrie.
Les interviews sont bâclées.
Donc, trois questions.
Deux, trois questions, pas plus.
Trois questions.
Avec des plans de coupe prétexte.
Il faudrait qu'elle redébranche et qu'elle rebranche en nous expliquant ce qu'elle nous expliquait.
Ah, okay.
D'accord.
Voilà, elle s'est pesée, elle a le monteur et tout cela pour... Mais allez, laisse tomber, on part.
Ok, d'accord, ça marche.
Des tournages express chez des gens démunis qu'on ne prend même pas la peine de connaître.
Dans la bande de Gaza, on les appelle les combattants de la résistance.
Les brigades armées nous mâchent le travail. Question mise en scène, ce sont des champions.
Il nous aura fallu plusieurs semaines pour rencontrer ces miliciens qui prônent la lutte armée contre Israël et jugent ce combat légitime.
Des combattants qui prennent surtout la pose alignés en rang d'oignons sous des arbres.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la roquette, là ?
La roquette, c'est toujours voilà, écrit « Kataib al-Nasr Salah al-Din, le brigade militaire de mouvement du comité populaire de la résistance. »
Les drones israéliens aussi profitent du spectacle, qui est de courte durée.
Tu crois vraiment que les oliviers, ça protège des drones ? Ouais.
Dans leurs vidéos de propagande, les branches armées des partis palestiniens montrent tout le temps les dents, surtout le Hamas. Mais quand je dois interviewer la branche politique... Je fais face à des papis à la barbe taillée, bien installés dans leur bureau, et qui n'hésitent pas à citer De Gaulle.
We are losing the battle, but we are not losing the war.
Comme l'autorité palestinienne en Cisjordanie, ils font surtout régner la terreur sur leur population.
Moi, je commence à bien aimer les brigades. C'était chelou, hein, t'as vu, ils avaient les uniformes tout neufs. Ça faisait trop bizarre, quoi. Ça faisait rentrer des classes, en fait. Moi, je pense que le son, il est pas mal, hein, le son du drone. Hein. Ouais. Bah, j'ai pris quand toi t'étais en train de faire des roquettes.
L'avantage de la radio, c'est qu'on peut travailler sans passer par la case salle de bain.
Les prochaines heures seront donc décisives après cette nouvelle escalade militaire lancée par le Hamas.
Je couvre souvent ces escalades militaires depuis Ramallah, en pyjama.
Ce dernier a été la cible de raids israéliens sur des positions militaires au nord de la bande de Gaza ce matin.
Et j'entre dans un tunnel.
Tard dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le port de la ville de Gaza sans faire de victimes.
Pas un tunnel de contrebande, mais un tunnel de papier et de direct.
Bon, bah j'en suis à mon 10e papier et à mon 10e café, tout va bien.
J'annule mes rendez-vous.
Bon, est-ce que je pourrais prendre ma douche ou dormir ?
Ça chauffe.
Oui, un civil israélien.
Ça réchauffe.
Tu sais, les petits coups de chauffe en soirée. C'était juste pour vous dire que ça chauffe un petit peu. Ça réchauffe un petit peu à la frontière de Gaza.
Ça s'enflamme.
Il y a de quoi actualiser parce qu'en fait, là, la situation, elle s'enflamme. Quoi.
Ça dégénère.
C'est possible que ça dégénère encore cette nuit à Gaza ?
Écoute, super, parce qu'on s'ennuyait, donc c'est dommage.
Ah bah écoute...
Mais jamais assez pour tromper l'ennui des rédactions.
Moi, je vais aller dormir parce que j'ai une grosse journée. Bah, en fait, c'est toujours un peu compliqué, enfin, tu vois, de se projeter.
Les cessez-le-feu concluent in extremis au cœur de la nuit ou au petit matin douchent les espoirs des correspondants.
Cours, je suis sortie du tunnel, enfin presque.
Et moi, j'en pleure de soulagement.
Parce que c'est la dernière putasserie.
Parce que je ne veux pas de ma petite guerre à Gaza.
C'est les correspondants qui partent au début de l'été, là, qui sont arrivés il y a 4 ans, et qui disent « Ah, mais tiens, on part, on n'aura même pas eu notre petite guerre à Gaza. »
Surtout depuis que j'ai failli y rester.
À suivre sur arteradio.com.
Bonjour à toutes et à tous. Journée sous haute tension. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens entament une grande manifestation. Nous serons en direct de la bande de Gaza au début de ce journal.
Je n'ai jamais vu la guerre promise, mais j'ai frôlé la mort au cours de la marche du retour.
Salut, ouais, ça va pas. Je viens de prendre beaucoup, beaucoup de gaz lacrymogène. Ouais.
La marche du retour, ce sont des manifestations hebdomadaires, organisées à la barrière de séparation entre Gaza et Israël en 2018 et 2019. Plus de 200 Palestiniens tués, près de 8000 blessés, dont des centaines d'amputés, parce que les snipers israéliens visent sciemment les jambes des manifestants. Un lourd bilan, c'est la formule que j'emploie dans mes sujets. Un massacre, c'est le terme le plus approprié. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlaovic. Produit par Arte Radio. Quatrième épisode. Entre les mondes.
Oui, c'est Marine Vlaovic à Gaza. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Et comme je venais juste de me prendre du gaz lacrymogène, c'était un peu compliqué de parler.
Le premier jour des manifestations, forcément, on ne sait pas à quoi s'attendre. La preuve, peu de correspondants ont pris la peine de faire le déplacement.
Les Israéliens, pour l'instant, ils sont plutôt mesurés, tu vois, ça canarde pas à tout va, mais à mon avis, ça tardera pas à arriver.
Je suis au cœur de l'action, dans la buffer zone.
Enfin, tu vois, je dis buffer zone, c'est-à-dire la zone tampon qui leur est normalement interdite.
Ouais. En temps normal, les Palestiniens n'y mettent pas les pieds. Des jeunes s'avancent vers les barbelés, fronde à la main, et se jettent littéralement sous le feu des soldats.
6 Palestiniens.
Le décompte des morts est enclenché.
7 Palestiniens tués par des soldats israéliens.
10 Palestiniens tués par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés.
À la une, au moins 12 morts et des blessés par centaines dans la bande de Gaza.
Plus le sang coule et plus je suis sollicité par les médias.
Je peux vous envoyer un papier, ouais. Je vous l'envoie enregistré, mais un peu faux direct avec de l'ambiance et tout.
J'ai vu un amputé aussi. Vas-y, prends-moi en photo, je marche. Vas-y, marche.
Et je deviens aussi cynique que mes confrères.
Dans les couilles. C'est pas grave.
Un manifestant touché aux couilles, c'est pas grave. Oui, oui, c'est bien ce que je viens de dire.
C'était quoi ça ?
Une balle israélienne me frôle de si près que je sens son souffle sur ma joue.
Il a dit des balles.
D'accord, de vraies balles.
Mais je continue à travailler en mode pilote automatique.
Quelques pierres sont lancées, mais elles ne font pas le poids face aux balles des tireurs d'élite de l'armée.
En fait, je vrille. Je suis en état de choc. Sous mes yeux, il y a des gosses prêts à mourir, qui s'avancent vers la barrière, au risque d'être éclopé à vie. Une guerre classique, la guerre promise, avec bombardement et tutti quanti, ça a le mérite d'être net et précis. On meurt ou on survit. On déblaye et on reconstruit. Ces jeunes, eux, ils sont condamnés d'office à une peine sans fin. Pour des raisons qui leur échappent. Enfin, surtout, qui m'échappe. Alors, je m'y rends aussi souvent que possible, pour comprendre Gaza.
Hello, Gaza. Pour toi, oui, hein. Pour moi, il y a 2 semaines.
J'en parle comme d'une personne, parce que j'ai toujours peur qu'elle soit désincarnée. À mon arrivée, le chauffeur du bus me regarde avec des yeux ronds quand je lui demande
«
Alors, comment va Gaza ?» Les femmes journalistes en tombent amoureuses parce qu'elles ont trop d'empathie, me glisse un ami italien qui y travaille depuis 30 ans. Une théorie fumeuse et sexiste. Mais en ce qui me concerne, il a raison. « I love Gaza ». C'est ce que dit le magnète déniché dans un des seuls magasins de souvenirs sur place. Il est toujours accroché à mon frigo. J'aime Gaza. J'aime ces bruits que je n'ai pas le temps de faire entendre dans mes reportages. Même les plus horripilants, comme les klaxons incessants, le vrombissement des générateurs et le bourdonnement des drones israéliens, toujours au-dessus de nos têtes.
And for us, the drone is part of our life, so we don't count it as something.
Oui, d'accord, mais quand même.
J'aime passer de longues heures à discuter de tout et de rien, au bord de la mer avec mes amis.
Miam, 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 miam. Ah, il y a plein de trucs.
Même si les navires de guerre israéliens ne sont jamais loin. Le blocus n'est pas seulement terrestre, il est aussi maritime. Les Gazaouis voient peu d'étrangers. Seuls les journalistes, les humanitaires et les diplomates y ont accès. Découvrir ce petit bout de terre si complexe, c'est une chance. Alors Gaza, c'est aussi difficile d'en sortir que d'y entrer. Parce que je ne sais jamais quand j'y retournerai. En quelques heures, je passe d'un monde à l'autre. Israël, à côté de Gaza, c'est Miami. En général, je conduis d'une traite jusqu'à chez moi, exténuée, avec une idée en tête.
Allez, les chebabs, là, on n'a pas le temps, là, faut qu'on aille se bourrer la gueule.
Et un KFC, là, on se demande qu'est-ce qu'il fout là, le mec avec sa sale barbe.
Il n'y a pas encore de McDo, mais le jour où il y a un McDo, c'est vraiment le summum de la normalisation.
Mais parce qu'il n'y a pas de McDo en Palestine, ça m'est arrivé de m'y arrêter pendant ma traversée d'Israël et d'en profiter pour faire mes achats chez Ikea. Sans doute un besoin pressant de normalité. Le plus souvent, je me contente de faire un crochet par Cheers, le débit d'alcool de Ramallah.
Marhaba. Kifa, Chularba. Directly from Gaza, voilà.
How is it there?
Et je retrouve ma maison frigo.
Ce qui est bien au moins, c'est que t'as pas besoin de mettre les biens.
Chinos. Nazorovia. À cette belle aventure, Marine. Ah, on a fait une belle aventure là pour l'instant.
Ah ouais.
Franchement, avec que des rencontres et des beaux sujets. Hein.
C'est exit sur cette terre maudite.
C'est bien une terre maudite. Et la religion, ce n'est pas le nerf de la guerre. Elle sert à masquer la dimension politique et territoriale du conflit. Elle rythme ma vie. D'abord à cause des week-ends à rallonge. Le vendredi, c'est jour férié pour les musulmans. Samedi, c'est chômé pour les juifs. Et le dimanche, c'est au tour des chrétiens de tirer le rideau. Trouver les bons intervenants dispo pour des interviews, c'est toujours une galère sans nom. Sans parler des fêtes nombreuses. Côté juif, à Kippour, l'aéroport de Tel Aviv est carrément fermé. Pendant Rosh Hashanah, Pessah, Sukkot et j'en passe, les territoires occupés sont bouclés. Côté musulman, la vie est au ralenti pendant le ramadan. En tout cas, la journée.
Il fait chaud. Mais alors, il fait chaud. Je suis contente que le ramadan se termine. J'en avais marre des horaires sans queue ni tête. Genre, tu sais, les interviews à 2h du matin parce qu'on peut se voir qu'après l'iftar, mais tard.
En Cisjordanie, les bars qui restent ouverts servent de l'alcool dans des gobelets à café. Et tout est fermé pendant l'Aïd, que je célèbre dignement.
Comme c'était le dernier jour du ramadan, en fait, j'ai fait deux dîners hier, deux iftars, et une soirée bien arrosée. J'ai la gueule de bois, mais grave. Voilà, c'est la fête.
Je ne vis pas seulement entre les mondes. J'ai toujours l'impression d'être dans une dimension parallèle. Surtout à Jérusalem. Je me suis longtemps méfiée de ces pierres qui suintent la haine de l'autre et la bigoterie. Ici, il n'y a pas beaucoup de place pour la piété et la joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés.
Exil Jérusalem, danse de joie.
La vieille ville de Jérusalem, c'est le Disneyland des religions. Dans un mouchoir de poche d'à peine 1 km², on croise des fous de Dieu de tous les bords. Et des touristes qui se ruent sur des croix, des chandeliers et des chapelets made in China ou des t-shirts pro-israéliens et pro-palestiniens exposés côte à côte. La vieille ville est occupée depuis plus de 50 ans et son statut n'est pas près d'être réglé. Sauf, peut-être, par une intervention divine. Je m'y suis toujours sentie oppressée. Et pour me réconcilier avec elle, je m'y suis installée quelques semaines, dans un appartement avec vue plongeante sur un checkpoint. Je suis aux premières loges, à l'une des portes de l'esplanade des mosquées, un lieu saint de l'islam, mais aussi un lieu sacré du judaïsme, le mont du temple, ou plutôt des deux temples qui ont été détruits. Et quand les fêtes des deux religions coïncident, c'est le dawa, le balagan, le bordel. D'ordinaire, les non-musulmans ne peuvent pas accéder à l'esplanade des mosquées pendant les fêtes musulmanes. Et jusqu'à ce matin, la police israélienne était restée confuse sur son intention d'y laisser entrer ou non des fidèles juifs pour un moment de recueillement, après la grande prière musulmane qui a réuni 100 000 personnes. Et en dénonçant des provocations, les forces de l'ordre sont intervenues sur ce site ultra-sensible à coups de grenades explosives, dont le seul but de disperser la foule, dénoncent les Palestiniens. Les fêtes chrétiennes sont un peu plus calmes. Pour les journalistes occidentaux, ce sont surtout de parfaits marronniers. Dans le jargon, un marronnier, c'est un sujet plutôt léger, qui revient avec régularité, comme les soldes ou la rentrée scolaire. En terre pas si sainte, je fais mes choux gras avec Pâques. Le monde entier se donne rendez-vous au Saint-Sépulcre, mais pour moi, c'est l'occasion rêvée de partir à la pêche aux pèlerins et aux touristes français. Je les repère de loin avec leur démarche toujours un peu affolée et leur équipement quechua. Et pour cause, j'ai les mêmes. Avec leur vision hexagonale, les rédactions raffolent des commentaires de nos chers compatriotes en goguette, même quand ils n'ont rien à dire.
Qu'est-ce que ça vous fait de fêter Pâques ici, dans la ville où ça s'est passé?
Écoutez, c'est bien, mais c'est pas bien, parce que, par exemple, vous voyez, hier, on voulait visiter la mosquée, on nous a pas laissé, et je comprends très bien, parce que, bon, voilà, alors que l'église catholique, il y a des gens qui mangent dedans, l'église catholique grecque, ainsi de suite, chrétienne, disons.
Le clou du spectacle, c'est Noël.
Dans la ville natale du Christ, selon la tradition chrétienne. Marine Vlaovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans les territoires occupés.
Bethléem, c'est l'un des endroits les plus tristes au monde où fêter Noël. La ville du Christ est entaillée par le mur de séparation. Malgré les illuminations, les chants, l'ambiance bon enfant encensée par les journalistes, l'atmosphère devient glauque quand les chebabs, les jeunes, débarquent des alentours pour voir de près des touristes.
5, 5, 5, 5, 5.
Par chance, ils ne font pas long feu.
Sous un vent glacial et une pluie battante, seuls quelques dizaines de pèlerins et de Palestiniens déambulent sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, où sera célébrée la messe.
Dans un froid de canard et posté à côté des policiers palestiniens qui me dragouillent, j'enchaîne les directs, les faux directs et les reportages jusqu'à la messe de minuit qui dure des heures. Souvent, j'y assiste depuis l'extérieur. Un soir sans fin, avec toujours le même refrain.
J'espère que tu vas bien. Je suis toujours en Terre Sainte. J'ai fait mon troisième Noël consécutif à Bethléem. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire qui se répète tous les ans à Bethléem. Donc du coup, avoir l'impression de se répéter tout le temps, c'est pas très agréable. Mais je suis rentrée dans la basilique de la Nativité cette fois-ci. C'était quand même un peu émouvant.
Ma seule religion, c'est le café. Je suis une mécréante, mais je ne m'en vante pas. Pour avoir la paix, je dis que mes aïeux sont chrétiens. Ma réponse ne convient à personne. Avec ma peau mate et mes cheveux bruns, je passe partout. Des deux côtés, on me harcèle pour connaître mes origines, les vraies. Parce qu'ils sont sûrement déçus de ne pas voir devant eux une blonde sapée à la dernière mode de Paris, les Palestiniens passent leur temps à me questionner. « Where do you come from ?»« Originally, I mean. » Avant de décréter que j'ai des yeux arabes un peu tombants. Sans doute pour éviter de parler de mon nez un peu trop grand.
Dites-moi, je peux vous poser une question indiscrète?
Même topo avec les Israéliens, qui demandent toujours l'air de rien. Tu es ici juste pour le travail? Histoire de vérifier si oui ou non, je suis une immigrée qui fait son alia.
Peut-être oui. Ah, vous êtes breton?
À chaque fois, j'ai l'impression de revivre l'interrogatoire de Mémé Sarfati d'Elikakou.
Peut-être vous êtes juif, vous ne le savez pas.
Le pire dans tout ça, c'est que je suis bretonne. Mais mes interlocuteurs ne comprennent pas toujours la référence.
C'est les plus âgés qui parlent.
Vous êtes parisienne?
Bretonne.
Bretagne.
Ouais. Oh, et là, lui, il est de Toulouse. Ok.
Vous parlez super bien.
C'est compliqué d'en rire avec les franco-israéliens que je côtoie au quotidien.
Contrôle encore? Non?
Ce sont des soldats en service en Cisjordanie, ou plutôt en Judée-Samarie, le nom biblique utilisé par les Israéliens.
Posté à Hébron.
Pour eux, comme pour la grande majorité des binationaux, je suis une journaliste française en service commandé.
Pourquoi c'est fatigant?
Je travaille contre Israël.
C'est ça qui rend fou. Moi, ce qui me rend fou, c'est le mensonge. J'ai vécu en France 17 ans, je voyais que du mensonge toute la journée. J'ai un Israël 3-4 mois par an, je sais c'est quoi la vérité. Et je regarde les informations, ce qui est marqué. C'est ça qui me rend fou, c'est la désinformation.
Ils réagissent toujours comme ça, sans même savoir que je vis à Ramallah et que je couvre en priorité l'actualité des Palestiniens. Je cache aussi ma véritable adresse aux colons. Qu'ils soient hippies, zadistes ou bureaucrates, les colons tiennent toujours le même discours.
Ici, on est en Israël, on est chez nous. Chez nous. Ici, c'est des territoires occupés par les Arabes. Voilà.
Et le contact avec les journalistes est souvent difficile. Surtout à Hébron.
Mais pourquoi vous n'êtes pas à Alep, madame? Il n'y a plus de problème à Alep qu'ici. Hein.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom?
Non.
Arrêtez, vous nous avez dit qu'on était en mission antisémite.
Quand on ne se fait pas insulter par les parents et les jeunes, les enfants nous jettent des pierres ou de l'eau.
Non, je te jure, ils sont en train de sortir le tuyau d'arrosage. Regardez. Les petits cons.
Et en ce moment, une évacuation conduite par la police israélienne. C'est donc en Cisjordanie, sur le site de la colonie d'Amona, près de Ramallah. Sur place, on retrouve Marine Vlaovic. Marine, pas d'incident majeur signalé jusqu'à présent.
J'ai donc menti à mon voisin Yo-Yo, un colon qui vivait à 10 minutes à vol d'oiseau de chez moi. J'ai assisté au démantèlement de sa colonie depuis sa maison, construite, comme les autres, en toute illégalité sur des terres palestiniennes. J'ai vu ces gamins se barricader dans une chambre.
C'est trop le bordel là-dedans. Ils vont les dépecer, les gosses.
Et les bulldozers entamaient le dépeçage de sa baraque en bois.
Tu peux m'expliquer ce qui se passe, là?
Ils vont détruire ma maison maintenant. Viens, boy.
Qu'est-ce qu'elle a écrit sur le mur, ta fille?
C'est écrit qu'on va revenir.
Et j'ai ressenti de la tristesse.
Elle a quel âge?
Elle a 11 ans.
Alors j'ai bu des bières avec lui dans un pub cachère de Jérusalem. J'ai été voir sa famille, dans le deux pièces où ils ont été hébergés en urgence, avant de faire la visite de son nouveau terrain, dans une colonie plus au nord, tout aussi illégale au regard du droit international. Et je n'ai jamais trouvé le courage de lui dire cette petite phrase. Tu sais, je vis à Ramallah. Parce qu'il m'aurait rembarré, tout simplement.
Yeah, there is.
Okay, now,
Je ne parle pas hébreu, non. C'est déjà assez dur d'apprendre l'arabe. Alors je suis incapable de déchiffrer les panneaux sur la route, les étiquettes des produits dans les supermarchés et les amendes collées par la police israélienne. J'en récolte un paquet. De l'autre côté du mur de séparation, je suis démunie. Mais ce n'est pas pour cette raison que je me rends de moins en moins en Israël. Depuis la balle de la marche du retour et tous ces morts à Gaza, j'ai de plus en plus de mal à entendre des horreurs. Même de la part de mon plus vieil ami israélien. Appelons-le Moshe. Je l'ai rencontré seulement quelques heures après avoir débarqué de l'avion. C'était ma première visite en Israël-Palestine il y a plus de 10 ans.
Bon, on va construire ici une maison, une building.
Alors Tel Aviv, c'est une petite New York.
Tel Aviv, c'est une ville comme une Athènes, c'est sale, c'est dégueulasse. Je te jure.
Mais c'est ta ville.
Non, je n'y vis pas ici, jamais, je déteste cette ville.
Au fil de mes visites, un rituel s'est instauré. Il venait me chercher à l'aller et m'accompagnait à l'aéroport pour le retour. On passait quelques heures ou une journée ensemble. Le reste du temps, je disparaissais en Cisjordanie. Il a toujours écouté mes aventures palestiniennes avec gourmandise. Parce que Moshe est arabe, c'est un séfarade. Une fois installé à Ramallah, j'ai continué à lui rendre visite. Il ne peut pas et ne veut pas venir à la maison. C'est interdit pour les citoyens israéliens et il a trop peur d'être attaqué.
Sans sucre ! Sans sucre !
Un jour, j'ai cessé de donner des nouvelles. Et j'ai commencé à me rendre seule sur la petite plage à côté de chez lui, sans le prévenir. Il m'a fallu du temps pour le rappeler.
Ça va ?
Ça va, toi ?
Oui, ça va, tu me manques beaucoup.
T'es en Israël ?
Oui.
Ah. Combien de temps tu es ici ?
Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on peut se voir demain, alors ?
On voit. Fesh-mouch-kela.
Ok, fesh-mouch-kela, tamam.
Ya, Tami. Tu passes des bons temps ?
En fait, j'ai arrêté de venir pas mal en Israël.
Pourquoi ?
C'était hyper dur après Gaza et tout ça.
Ouais. Tu es tout le temps, comment te dire, involved, émotionnel. Hein.
C'était vraiment dur parce que j'ai beaucoup couvert. Et en fait, j'avais pas envie d'entendre des trucs sur Gaza, ici.
Tu veux pas quoi, d'être ?
J'avais pas envie de venir te voir et qu'on parle de Gaza et qu'on s'engueule parce que...
Non.
Parce que j'allais, tu vois. Et voilà, c'est pour ça.
Et comme tout le monde ici, palestiniens et israéliens confondus, il me fait remarquer que je n'ai toujours pas d'enfants.
Les enfants,
on verra.
C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, tiens.
Pourquoi ? Regarde pas comme ça.
Les enfants,
il n'y a pas d'obligation. Moi, je serais plutôt concombre.
Comme prévu, on a parlé de tout et de rien. Et on s'est engueulé en évoquant son sujet favori, la terre promise.
Même si elle était ici il y a 2000
ans. Donc c'est parce que Dieu t'a promis la terre
ça,
que,
c'est
tu
non,
peux,
ça.
Que tu peux spolier le droit de propriété des autres, la mémoire, la culture.
Non. Qu'il y a un seul pays dans ce monde où on peut exister et on peut vivre. C'est Israël.
Mais à quel prix ? C'est tiré écoute, sur des non, gens qui, non, ont, mais, qui mais sont désarmés à la frontière de Gaza.
On tire pas.
Si, j'ai failli mourir à cause d'une putain de balle.
Mais ok, moi aussi, quoi. Tu sais combien de bombes il y avait dans la rue ? Des bouches, des restaurants, des hôtels. Partout, il y a milliers qui sont morts. Milliers, tu comprends ? Milliers. Il faut trouver des vraies solutions.
La vraie solution à ce conflit ? C'est qu'il n'y a pas de solution, malheureusement. Et si j'ai été voir Moshe, ce n'est pas pour en débattre. Non, c'est parce que je sais que je suis sur le départ.
À suivre sur arteradio.com.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!